Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir, nouvelle dégradation en France des chiffres du Covid. Le spectre d'une cinquième vague encouragée par un relâchement des gestes barrières, mais pas question, vous l'entendrez, d'imiter l'Autriche et de confiner les non-vaccinés. Marine Le Pen inaugurait ce soir son QG de campagne à Paris. La candidate du RN a frappé fort contre les prétendants à l'investiture républicaine. François et Pénélope Fillon, de retour devant les juges, procès en appel du Pénélope Gate qui avait mis fin à la carrière politique de l'ancien Premier ministre. Le CPF à toutes les sauces, démarchage insistant ou pure arnaque, solliciter les Français au nom du compte professionnel formation sera bientôt interdit. Le temps pour demain va s'améliorer dans le sud-est, nous dira Marlène Duret, gris et humide partout ailleurs. L'invité éco, nous serons avec le PDG d'Intel France à l'occasion des 50 ans du tout premier microprocesseur. Et puis on verra les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
C'est un chiffre qui vaut tous les conseils de vigilance. Pour la première fois depuis 2 mois, le taux d'incidence du Covid dans la population française repasse au-dessus de 100 cas pour 100 000 habitants. Aucune région n'est épargnée, aucune classe d'âge non plus. Certes, le vaccin nous protège, mais il incite aussi au relâchement sur les gestes barrières, comme dans ce centre commercial parisien. Reportage Nina Droff.
Dans les rayons étroits d'un magasin de prêt-à-porter, une dizaine de clients s'agglutinent devant les dernières nouveautés, sans se distancier. Certains portent le masque sous le nez, la vendeuse est même obligée de les rappeler à l'ordre. Selon la gérante Liliane, ces scènes de relâchement des gestes barrières sont désormais fréquentes.
L'usage du gel hydroalcoolique, on n'en tient plus assez compte. Et le port du masque, il y a des gens qui ont tendance à beaucoup le négliger. Même dans les centres commerciaux, ils rentrent sans masque et ils vont venir vous dire « Ouais, désolé, on a oublié le masque ».
Des comportements risqués qui inquiètent les personnes les plus fragiles, surtout depuis que les contaminations sont reparties à la hausse. Martine s'est depuis peu remise à porter le masque à l'extérieur et prend ses précautions quand elle va faire les magasins.
Enfin, j'essaie d'y aller un peu aux heures creuses pour qu'il y ait moins de monde. Pareil dans les transports. Quand on voit ce qui se passe en Europe, c'est un peu inquiétant. On s'aperçoit quand même qu'on n'est pas encore débarrassé de ce virus. Il faut continuer à faire attention.
Plusieurs magasins ont prévu de renforcer l'affichage pour les gestes barrières dans leurs rayons.
La cinquième vague de Covid est donc à nos portes. Elle frappe déjà plus sévèrement d'autres pays européens. Depuis ce matin, l'Autriche applique une décision radicale. Toute sa population non vaccinée est confinée. Maintenant qu'en effet le vaccin existe, est-ce bien la bonne voie à suivre? Réponse de l'épidémiologiste Philippe Amouyel.
Confiner les non vaccinés, je ne pense pas que ce soit la solution miracle pour réduire la vague épidémique qui est en train de déferler dans certains pays européens. Et puis d'autre part, ça crée une stigmatisation de ces populations qui sont une population hétérogène. Vous avez des gens qui ne se vaccineront jamais, donc ça ne changera pas grand-chose. Vous avez des gens qui hésitent. Cela, on peut encore les convaincre parce qu'ils trouvent qu'on n'a pas assez de recul, etc. Donc il faut continuer dans cette direction pour les vacciner. Puis enfin, vous avez des gens qui devraient être vaccinés, qui ont plus de 80 ans, qui n'ont pas accès à la vaccination directe, qui sont isolés, qui ne savent pas se servir d'Internet. Cela, il faut aller vers eux. Donc là encore, le fait de les confiner ne va pas changer grand-chose. Donc il faut rester vigilant. Il faut bien sûr continuer à vacciner le plus grand nombre de gens possible, et en particulier ceux qui ont besoin d'une troisième dose, mais également faire attention aux autres virus et s'en protéger d'une manière simple qui est de mettre le masque, se laver les mains et bien aérer ses pieds.
Philippe Amouyel, professeur de médecine au CHU de Lille, joint par Céline Géraud. L'Autriche est donc le premier pays en Europe à briser une forme de tabou. Se pourrait-il qu'en France, le pouvoir décide à son tour de confiner les non-vaccinés? Au sein du gouvernement, Jacques Sorel, l'idée même que cette question soit posée agace.
Oui, à tel point qu'hors micro, certains ministres n'y vont pas par quatre chemins. Le confinement des non-vaccinés existe déjà en France, peste un membre du gouvernement. Comme si le pass sanitaire était déjà la contrainte ultime pour ceux qui n'ont pas reçu leur dose. Ce qui est faux, puisque le pass sanitaire français peut être valide grâce à un simple test. Le signe d'une certaine tension dans la Macronie. De revoir ces questions de contrôle revenir sur le devant de la scène. D'autant plus que pour le moment, aucune réunion, aucune discussion ne sont à l'ordre du jour pour durcir les règles ou réfléchir à un reconfinement même partiel, car la majorité présidentielle ne souhaite pas en arriver au même point que l'Autriche, fait savoir le patron des députés marcheurs Christophe Castaner. Nous n'en sommes pas là, mais on n'écarte aucune piste, lâche un ministre. Preuve encore que la prudence est de mise alors que l'épidémie repart à la hausse et que l'exécutif veut tout faire pour éviter de se contredire d'une semaine sur l'autre. C'est pourquoi le gouvernement ne compte marteler qu'un seul message dans les prochains jours, celui de la promotion de la vaccination. alors que 20% des Français y sont toujours totalement réticents.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et si l'on en croit le chancelier autrichien, le confinement des non-vaccinés porte déjà ses fruits. Moins de 24 heures après sa mise en place, l'Autriche assiste à une ruée dans les centres de vaccination du pays. Les téléphones ont chauffé ce soir dans la crise des migrants à la frontière polonaise. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé près de 2 heures. Ils sont d'accord pour une désescalade. Autre coup de fil au sommet entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Aucun détail n'a filtré. Dans l'immédiat, l'Union européenne et les États-Unis préparent une nouvelle série de sanctions contre la Biélorussie. Washington va réclamer des comptes à Minsk sur l'exploitation inhumaine des migrants. La Pologne, elle, va commencer le mois prochain la construction d'un mur le long de sa frontière où se trouvent toujours des milliers de migrants. Marine Le Pen inaugurait ce lundi son QG de campagne à moins de 5 mois de la présidentielle. La candidate du Rassemblement national a installé son équipe dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Depuis ses locaux, Marine Le Pen s'est montrée très offensive face aux candidats républicains au lendemain de leur deuxième débat.
Chez LR, je n'ai plus de compétiteurs, j'ai des clones. C'est un concours de clones. Donc, qui va dire exactement la même chose que Marine Le Pen ? À la virgule près. Un projet de loi, référendaire sur l'immigration, toute une série de propositions que nous défendons depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans parfois, pour lesquelles ils nous ont beaucoup d'ailleurs critiqués et condamnés par le passé. Nous avons l'habitude de ce que les dirigeants LR sont capables de faire, toujours très fermes pendant les campagnes électorales, et puis arrivés au pouvoir, eh bien il n'y a absolument rien qui est fait, parce que pour faire, il faut en même temps avoir des convictions, et du courage, et je me permets de penser que pour un certain nombre d'entre eux, il manque des deux.
Marine Le Pen avec Victor Chabert. C'est l'affaire qui avait provoqué la chute de François Fillon en pleine campagne présidentielle. Le Penelope Gate revient devant la justice. François et Penelope Fillon jugés en appel dans ce procès pour soupçon d'emploi fictif. Il y a un an, en première instance, l'ancien Premier ministre avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Son épouse à 3 ans avec sursis, Gladys Laffitte. Vous suivez ce procès pour Europe 1. Les premières déclarations du couple Fillon, Gladys, en particulier de Penelope Fillon, donnent une idée de leur ligne de défense.
Ah oui, face à la cour, l'épouse de l'ex-premier ministre, robe à pois et châle bleu sur les épaules, a expliqué de cette voix faible qu'on lui connaît qu'elle a fait appel car elle s'est sentie ridiculisée, humiliée lors du premier procès. J'étais tétanisée au point de ne pas pouvoir m'exprimer comme je l'aurais voulu. J'avais l'impression qu'il y avait un préjugé sur moi dès le début et cette fois-ci, j'aimerais vous convaincre de tout ce que j'ai fait durant ces années de travail. Son mari, François Fillon, retraité selon ses propres mots, conteste lui aussi, d'une voix plus grave et plus assurée, le premier jugement, mais avant d'en entendre ses arguments au cours des débats, son avocat torpille l'enquête qu'il cherche à faire annuler. Il y a quelque chose de pourri dans la procédure. François Fillon n'a pas reçu le même traitement judiciaire que tout autre justiciable. Il en veut pour preuve les déclarations, après le premier procès, de l'ex-chef du parquet national financier, disant avoir subi des pressions de la part de sa hiérarchie dans cette affaire.
Gladys Laffitte à la cour d'appel de Paris. Boris Johnson appelle les Britanniques à la vigilance après l'explosion d'un taxi à Liverpool, explosion qualifiée d'acte terroriste. L'attaque a coûté la vie au terroriste présumé qui aurait fabriqué lui-même l'engin explosif, selon les enquêteurs. Le Royaume-Uni qui relève aujourd'hui le niveau de la menace terroriste sur son sol.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
On ne l'avait plus observé depuis le début de la crise sanitaire. La mortalité routière repart à la hausse pour la première fois en 2 ans. 14% de morts supplémentaires sur les routes le mois dernier par rapport à octobre 2019. À la prévention routière, Anne Lavaux, la déléguée générale, n'est pas surprise. Depuis longtemps, elle craignait ce retour en arrière.
Il faut remonter à 2012 pour retrouver un nombre de blessés aussi élevé qu'en octobre 2021. Donc il y a un vrai phénomène que notre association explique par un relâchement généralisé qui est dû également à des difficultés que l'on a à passer des messages de prévention sur les sujets de route en raison du fait que le Covid et la prévention santé écrasent un petit peu tout. Eh bien, malheureusement, les chiffres que l'on observe sur ce mois d'octobre vont peut-être nous donner raison.
Anne Lavaux de la prévention routière avec Wilfried De Villers. Airbus s'est largement relevé de la crise sanitaire. En seulement 48 heures, l'avionneur européen prend une deuxième commande avec beaucoup de zéros à la fin du chèque. Un loueur américain vient de signer une lettre d'intention pour 111 appareils au salon de Dubaï. Voilà de quoi faire oublier l'impact de la crise sanitaire, Carole Ferry.
En effet, puisque ce week-end déjà, Airbus a reçu une commande de 255 avions destinés à 4 compagnies aériennes différentes, ce qui fait 366 nouveaux avions à construire avec la commande d'aujourd'hui. C'est donc une très belle reprise pour Airbus après 15 mois de crise, en particulier sur les avions moyen-courrier. Ces commandes montrent que les compagnies aériennes voient l'horizon se dégager. Aujourd'hui, le trafic est largement reparti aux États-Unis. L'Europe repart bien également, seule l'Asie prend plus de temps. Le trafic fret également affiche de très bons résultats, meilleurs même qu'en 2019, soutenu par la reprise économique et le développement du commerce en ligne. Ces compagnies sécurisent donc leur créneau de livraison d'avions neufs, car reprendre la cadence ne sera pas si simple. En pleine crise, Airbus a réduit sa production de 40%. Il faut donc relancer l'outil industriel, que les fournisseurs suivent également. Aujourd'hui, l'avionneur européen construit 40 avions par mois. L'objectif est de passer à 65 par mois d'ici l'été 2023.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Une annonce d'Amazon. Juste après la COP26 et juste avant la période des fêtes de fin d'année, le géant de la vente en ligne annonce la fin de ses emballages plastiques d'ici à la fin de l'année en France. Le papier bulle, les pochettes plastiques d'Amazon seront donc remplacées par du papier et du carton. Vous ne supportez plus d'être sollicité en permanence à propos du CPF, le compte professionnel formation. Depuis sa réforme, vous êtes nombreux à vous retrouver spammés littéralement d'appels téléphoniques, de mails d'entreprise pour vous vendre tout et souvent d'ailleurs n'importe quoi. Bonne nouvelle, le gouvernement va faire interdire ce démarchage sauvage. Un amendement sera déposé dans les semaines qui viennent, Élise Dangean.
Oui, c'était une promesse du ministère du Travail qui va s'inspirer de la loi mise en place pour lutter contre les arnaques dans le domaine de la rénovation énergétique. Concrètement, il y aura des amendes pour les démarcheurs et elles seront dissuasives. Une excellente nouvelle pour Olivier Poncelet, délégué général des acteurs de la compétence, première fédération des entreprises de formation.
On sait à quel point la formation, c'est indispensable, à la fois pour les personnes, pour les entreprises et pour répondre aux besoins de transformation de notre pays. Et donc tout ce qui pose un risque vis-à-vis de la confiance dans la formation professionnelle doit être écarté. Donc c'est pour ça que c'est indispensable de rétablir la confiance vis-à-vis des outils de formation. En France, on a la chance d'avoir des dispositifs pour se former et donc il faut absolument les protéger et exclure tous les escrocs de ce secteur.
Car au-delà du harcèlement téléphonique, il y a des pratiques très agressives, voire illégales. Arnaque à la fausse formation, piratage de comptes CPF, objectif de ces acteurs peu scrupuleux, récupérer une partie du butin des 38 millions de bénéficiaires du compte professionnel de formation qui représente une manne d'environ 53 milliards d'euros.
Élise Dangean. Un juge d'instruction va enquêter sur l'agression de la joueuse du PSG Kaira Amraoui le 4 novembre dernier. L'ex-international Eric Abidal pourrait être entendu prochainement dans ce dossier. La victime utilisait sur son téléphone, son téléphone portable une puce au nom du footballeur. Les Bleus affrontent demain la Finlande. Dernier match de l'année. Ils se sont entraînés ce soir sur la pelouse du stade olympique d'Helsinki. On pourrait se dire pour une promenade de santé. Sauf que les Bleus vont devoir affronter non seulement un adversaire motivé, Jean-François Pérez. On sait qu'ils sont déjà qualifiés, les Bleus, pour le Mondial, mais aussi, Jean-François, des conditions météo très rigoureuses.
Oui, même si l'hiver arrive peu à peu sur la France, le contraste est saisissant. Ici, au nord-est de l'Europe, à 2000 km de Paris, la nuit tombe avant 16h et le vent polaire vide rapidement les rues. Demain, au coup d'envoi, à près de 22h locales, il fera zéro ou un peu moins. Le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, se tient prêt.
Lorsqu'on est gardien de but, on essaie de rester le plus actif possible dans le froid, pour pas prendre un coup de froid, j'ai envie de dire, même si on est toujours focus sur ce qui se passe devant nous et il faut toujours rester concentré dans son match, mais forcément on gère les matchs différemment en fonction du climat.
Si le froid sera l'un des principaux acteurs de cette dernière soirée foot pour les Bleus cette année, il y aura aussi du suspense, non pas pour l'équipe de France qui est déjà qualifiée, d'ailleurs Didier Deschamps en profitera pour opérer une large revue d'effectifs, mais pour la Finlande qui joue sa place en barrage et doit réaliser une grosse performance face aux champions du monde. Elle sera soutenue par plus de 30 000 personnes malgré le froid. Depuis la qualification pour l'Euro, le foot ici est de plus en plus populaire. La première Coupe du Monde de la Finlande n'est plus très loin.
Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 à Helsinki. Merci Jean-François. Finlande-France, coup d'envoi demain soir, 20h45. Un match que vous pourrez suivre en fil rouge sur Europe 1. Et puis toujours dans ses qualifications pour le Mondial, on apprend ce soir que Neymar est forfait pour le match du Brésil demain contre l'Argentine. L'attaquant souffre de douleurs à la cuisse. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret, je crois qu'on ne s'y trompera pas. Demain, ce sera une vraie météo de novembre.
Oui, une ambiance automnale, Alexandre, sur les trois quarts du pays, avec avec une amélioration pour le sud-est. Hein, vous savez que les vents ont soufflé bien fort aujourd'hui. Et il a neigé aussi, pas mal neigé sur les Alpes frontalières. Et bien le soleil va revenir dans les Alpes demain, mais aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Basse-Vallée du Rhône, dans les plaines du Languedoc, autour du pourtour du Golfe du Lion. Un ciel un petit peu plus variable va concerner les Pyrénées-Orientales et les Alpes frontalières, avec encore quelques petites précipitations le matin. Risque d'averse qui reprendra l'après-midi dans l'est de la Corse, sinon ce sera sec hein, partout, du côté de la Méditerranée. Et puis sur le reste du pays, eh bien oui, un temps de novembre, vous l'avez dit, ambiance grise et humide, brumeuse le matin, avec parfois un petit peu de crachin ou des pluies faibles. Et ça va durer,
c'est la totale, là.
Ça va durer toute la journée. Okay. Les températures conformes aussi aux moyennes de saison. Pas de gelée matinale en raison de cette couverture nuageuse. Les maximales en journée afficheront sur la moitié nord seulement 8 à 11 degrés jusqu'à 12-13 du côté de la Bretagne. Et puis au sud, 11 à 13 et même un petit peu plus vers la Méditerranée. Ça peut monter jusqu'à 19-20 degrés sur les plages de la Côte d'Azur et de la Corse.
Merci beaucoup Marlène Duret. On vous retrouve tout à l'heure à minuit pour un dernier point météo sur Europe 1. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. L'invité éco, Stéphane Nègre, PDG d'Intel France. A tout de suite.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Claire Lemaître est avec nous de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Le début de semaine a été très hésitant pour les marchés américains. Wall Street craint une remontée des taux plus rapide que prévu à cause de l'inflation.
Et les investisseurs sont prudents face aux tensions ce soir sur les marchés de taux. Ça donne un Dow Jones en toute petite baisse, moins 0,03%, 36 087 points. Même chose pour le Nasdaq qui cède 0,04%. À côté valeur, Boeing bondit tout de même de plus de 5%. L'avionneur américain profite de nouvelles commandes d'avions au salon aéronautique de Dubaï. Ça monte aussi pour les technos. Amazon plus 0,6. Meta, c'est le nouveau nom de Facebook, avance de 2%. Apple est stable. Tesla, en revanche, perd 2%. Le patron Elon Musk l'avait promis sur Twitter. Il a vendu 6,4 millions d'actions pour près de 7 milliards de dollars. Mais le compte n'y est pas puisque le vote portait sur la vente de 10% de sa participation au capital. Sur le front des devises, l'euro est retombé sous le seuil de 1,14 $. C'est la première fois depuis juillet 2020 après des propos de Christine Lagarde. La patronne de la BCE, la Banque Centrale Européenne, a exclu un geste haussier sur les taux directeurs en 2022 qui serait contre-productif selon elle.
On commence à avoir l'habitude, Claire. La semaine démarre par un nouveau record historique pour le CAC 40. Au-dessus du seuil des 7100 points.
Voilà, rien n'arrête le CAC, ni les craintes sur l'inflation, ni l'épidémie de Covid qui repart très fort en Europe. L'indice gagne encore 0,53%. Il est à 7128 points ce soir. En tête du CAC, on trouve BNP Paribas. La banque envisage de céder sa filiale américaine Bank of the West. D'après l'agence de presse Reuters, l'action grimpe de plus de 3%. Airbus gagne 1,7%. Vous en parliez dans le journal. Comme son concurrent Boeing, l'avionneur a décroché plusieurs grosses commandes au salon de Dubaï. Et puis le secteur du luxe apporte encore sa contribution avec Hermès qui a touché un nouveau record aujourd'hui. Plus 1,5% ce soir pour Hermès.
Ça ne se passe pas aussi bien en revanche pour l'action Pierre et Vacances Center Parcs.
Et la situation reste très difficile pour le numéro 1 européen des résidences de loisirs, toujours à la recherche de fonds pour redresser la barre. Une seule offre ferme aurait été déposé pour recapitaliser le groupe, selon le journal Les Échos. Le titre chute ce soir de 13% et il a dégringolé de 46% depuis le début de l'année. Ailleurs en Europe, c'est un record ce soir pour le DAX à Francfort. L'indice gagne 0,3%. Londres est stable. Madrid gagne 0,2%. Milan plus 0,5%. Amsterdam plus 0,3%. Et puis à Paris, le CAC 40 signe un nouveau record à 7128 points.
Merci Carl. Maître boursier.com.
La Caisse d'épargne vous présente l'invité éco. Caisse d'épargne, vous être utile.
La micro-informatique a déjà un demi-siècle. On fête en particulier les 50 ans du tout premier microprocesseur mis sur le marché, l'Intel 4004, contré à l'époque 2300 transistors. Par comparaison, aujourd'hui, les processeurs dernier cri en comptent des milliards. Tant de chemin parcouru. Et pour en parler ce soir, l'invité éco est Stéphane Nègre, PDG d'Intel France. Il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Stéphane Nègre.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président d'Intel France. Alors si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que nous avons eu envie avec vous, d'une certaine manière, de fêter un anniversaire. Un anniversaire du processeur 4004 d'Intel. Pour ceux qui sont fans d'informatique, ça parle obligatoirement. J'ai bien dit 50 ans, le 15 novembre 1971, vous annonciez la mise en vente, d'une certaine manière, de ce tout premier processeur qui tenait à l'époque dans un microprocesseur. Ça n'a plus rien à voir, l'informatique d'aujourd'hui, 50 ans plus tard.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et ce qui était vu comme une innovation presque d'ingénieur il y a 50 ans est devenu un objet presque du quotidien. Même si on n'a pas conscience, mais tous les objets numériques qui nous entourent, que ce soit l'écran d'une voiture, d'une télévision, un smartphone, ou etc., derrière, il y a un microprocesseur qui est le cerveau derrière cette intelligence, qui est le cerveau derrière ces services du numérique qui sont devenus notre quotidien.
Quand les ordinateurs ont commencé à entrer dans nos maisons, les ordinateurs fixes dans un premier temps, puis les ordinateurs portables, il y avait à l'époque toujours microprocesseur by Intel, comme si c'était la certitude que l'on achetait le bon produit. Aujourd'hui, on ne voit plus vraiment ça. Est-ce que Intel est passé de mode ?
Alors, Intel est toujours extrêmement présent dans le monde du numérique et surtout dans l'innovation du numérique.
Mais on avait l'impression qu'à un moment, c'était un gage de sécurité, un gage de bons produits, parce qu'on avait du Intel dans nos poches.
Alors ça reste certainement un curseur ou un critère d'innovation forte. Nous avons lancé très récemment notre 12e génération de processeurs Core, qui a été vu unanimement comme le meilleur processeur du marché, en tout état de cause, qui montre les meilleures performances et le potentiel d'innovation qui existe sur le marché. Donc depuis 50 ans, Intel a innové constamment sur de nombreuses générations de processeurs et on reste extrêmement présent dans tous les produits du numérique.
Alors, je rappelle que vous êtes le président d'Intel France. Vous allez pouvoir nous éclairer. On parle beaucoup de la crise des semi-conducteurs en ce moment qui touche tous les secteurs d'activité. Quelle est la réalité de cette crise ? Vous les produisez, vous, ces processeurs, ces semi-conducteurs. Quelle est la réalité ?
Alors, on s'améliore. Globalement, l'industrie du semi-conducteur s'améliore. Cela dit, nous-mêmes, nous pensons qu'il y aura toujours des tensions en termes d'approvisionnement pour au moins l'année prochaine, c'est-à-dire de 2022, et on ne pourra complètement en sortir qu'en faisant des investissements importants. Une usine de semi-conducteurs, ce sont des investissements de l'ordre de 20 milliards d'euros par usine ou par technologie dans une usine. Et c'est des investissements qu'il faut réitérer très régulièrement. Donc le seul moyen d'en sortir, parce que la demande en produits numériques va continuer d'augmenter, le seul moyen de se sortir de cette pénurie, c'est d'augmenter les capacités de fabrication et donc les investissements nécessaires pour fabriquer du semi-conducteur.
Eh bien justement, qu'est-ce que vous attendez du côté d'Intel ? Votre grande direction du côté des États-Unis a annoncé il y a de cela quelques mois que vous alliez mettre une nouvelle usine, une gigafactory comme on dit aujourd'hui, en Europe. Alors, a priori, c'est l'Allemagne qui pourrait peut-être gagner, mais il paraît que la France n'est pas trop mal placée. Elle est pour nous, cette usine, à plusieurs milliards de dollars d'investissement ?
Alors déjà, la très bonne nouvelle, c'est qu'un investissement qui sera en Europe continentale, qui rentre complètement dans la volonté de la communauté européenne d'être moins dépendante d'autres zones géographiques pour le semi-conducteur. Donc Intel se reconnaît, fera les investissements nécessaires pour contribuer à cette, entre guillemets, indépendance ou souveraineté en termes de semi-conducteurs. Aujourd'hui, ce que nous avons dit, c'est que nous investirions en Europe de l'ordre de 80 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. C'est extrêmement important. On est en train de choisir le meilleur site pour cette
vous
usine,
choisissez le meilleur site, de cette usine. Vous choisissez le meilleur site ou vous attendez qu'un État européen vous fasse la meilleure proposition en termes de subvention ?
Choisir un endroit pour une meilleure implantation pour une usine de semi-conducteurs, les subventions des gouvernements sont importantes. La proximité d'un écosystème de nos clients, de nos partenaires, technologique est aussi extrêmement important. Donc il y a un certain nombre de critères pour un meilleur site. C'est en Europe et on devrait annoncer ce site fin de cette année ou début d'année prochaine. Donc, dans
mais est-ce que la France est toujours dans la course?
La France est dans la course depuis le début.
Et elle n'en est pas sortie.
Attendant de savoir ce qui sera annoncé, mais d'avoir un site en Europe sera bénéfique pour nos partenaires, pour les industriels.
Mais au-delà d'être bénéfique, c'est capital pour la souveraineté européenne, puisque je crois que la Commission européenne a pour but d'accueillir 20% de la capacité de fabrication de semi-conducteurs d'ici 2030. 2030, dans votre secteur, c'est demain, ça veut dire qu'on part vraiment de loin et que si on veut un tout petit peu peser, il faut accélérer.
Il faut accélérer les investissements, il faut accélérer les partenariats pour augmenter ces capacités. Ce n'est pas uniquement des capacités de production, c'est des capacités d'innovation dans le semi-conducteur, de développement de composants dans le semi-conducteur qui, en final, seront produits. Donc, vous avez tout à fait raison, la volonté européenne est de représenter à peu près 20% du marché du semi-conducteur d'ici 2030. Aujourd'hui, elle est inférieure à 10%. Donc, il faut doubler la représentativité mondiale, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup investir en Europe pour y arriver et investir plus que les autres zones géographiques pour rattraper, entre guillemets, ce retard qui a été pris au niveau européen.
Merci beaucoup, Stéphane Nègre. Je rappelle que vous êtes le patron d'Intel en France. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous Emmanuel Duteil, on vous retrouve demain également aux côtés d'Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1, ce sera l'heure du café et ça tombe très bien d'ailleurs puisque votre invité sera le patron des cafés Carte Noire.
C'était l'invité éco avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Coup d'œil à vos quotidiens sur Europe 1 pour ce mardi matin 16 novembre. Le Figaro se demande pourquoi l'Europe fait face à un regain de l'épidémie. La circulation du virus, et on vous en parle ce soir sur Europe 1, repart à la hausse dans toute l'Europe avec des conséquences inégales entre les nations puisque jusqu'ici, la France et les pays du sud du continent sont parmi les moins touchés. Un face-à-face entre militaires et migrants à la une de La Croix. La Biélorussie utilise les migrants comme une arme dans son bras de fer avec l'Union européenne qui refuse depuis un an de reconnaître la réélection d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse qui instrumentalise donc la crise migratoire. Ces tensions à l'Est, titre Ouest France, dressent un nouveau rideau de fer. Aujourd'hui en France, vous propose demain matin un dossier pratique consacré à vos dépenses récurrentes, qu'on parle de chauffage, d'internet, de crédit ou de téléphonie. Comment mieux maîtriser les charges fixes, ces charges qui représentent chaque mois 35% du budget des Français. Et puis Libé s'intéresse à ce nouveau marché des livraisons express, les courses contre la montre, des produits livrés en 10 minutes à domicile. C'est ce que promettent plusieurs start-up dans les grandes villes depuis quelques mois. Libé qui a donc enquêté sur ce nouveau marché. 22h30, tout pile sur Europe 1. Nous sommes avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Prêt pour votre libre antenne?
Prêt. J'étais en train de penser que bientôt on pourra rester chez soi et plus rien faire aussi.
Bah, ça a déjà bien commencé.
Oui, ça a déjà bien commencé. Il y aura eu du Uber café, je vous entendais parler du café. Un Uber pour venir vous servir le café le matin. Un Uber pour vous appuyer sur la télécommande. Et vous verrez.
Remarquez, la tentation est forte avec la météo du mois de novembre. Là, ça tombe. Voilà.
C'est sûr que nous avons vécu aujourd'hui, chers amis du Sud et du Sud-Ouest, vous qui nous écoutez, nous avons vécu notre première journée d'hiver aujourd'hui.
C'est ça.
C'était vraiment la journée écossaise.
La nuit à 15h.
Exactement. Voilà. Avec un petit crachat, bien comme il
bien
faut.
Bien sympathique.
Comment allez-vous, mon cher?
Ça va très bien.
Bon, très bien. Bah, écoutez, on vous retrouve tout à l'heure à 23h.
À tout à l'heure.
Pour votre flash, à tout à l'heure.